les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h et le mardi à 23h. Et aujourd'hui, Rosendo reçoit Geneviève André-Aquier.
Bonjour à tous. Effectivement, je reçois aujourd'hui Geneviève André-Aquier pour notre dernière émission avant les vacances d'été, puisque nous arrêtons les mois de juillet-août et nous reprenons en septembre. Donc, Geneviève André-Aquier, professeure de lettres modernes en collège, chargée de cours à la faculté libre de lettres Institut catholique et à l'université de Toulouse, Les Mirailles et Albi. Et bonjour Geneviève.
Bonjour Rosendo.
Et je dois ajouter aussi que tu as un doctorat, et Henri Michaud et l'Orient d'un extrême ailleurs l'autre, dont on va en parler sûrement. Tu as un doctorat en 93 et après tu as une activité aussi dans les divers milieux de la littérature de l'université et de la littérature comparée. Et donc, et on va essayer de résumer en une heure toutes tes activités, tes projets, ton travail actuel, l'exposition que tu mijotes. Et voilà. Donc, dis-moi si cette petite présentation pourrait ressembler à ce que tu imagines de toi-même.
Oui, bien sûr, mais là, c'est un résumé des engagements. En gros, je suis une enseignante depuis toujours, depuis l'enfance peut-être, et donc ça a pris au cours de ma vie des formes un peu particulières, vu que soit j'ai sollicité, mais souvent on est venu me chercher. Donc j'ai surtout enseigné en lycée, ce que j'ai beaucoup aimé pendant 41 ans. Et je me suis exercée effectivement avec un public d'adultes, soit en université, soit en université populaire d'ailleurs.
Mm-hmm. Mais tu as été aussi maître de conférences à partir de 94.
Oui, à l'université, oui. Mm-hmm. C'était très bien, mais j'ai surtout enseigné en lycée.
Mm-hmm.
Voilà.
Tu disais qu'à partir de l'enfance, tu as été déjà pour les partages, pour la littérature. Donc déjà, enfant, tu savais que tu allais faire ça?
Alors, étrangement, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de livres.
Ah ouais? Alors raconte-moi ça.
Je pense en avoir eu deux fois au cours de Noël. Voilà. Et ces livres-là ont fait leur effet, certainement, parce que peu à peu, j'ai demandé à lire. Voilà. Et lorsqu'on demande à un enfant « qu'est-ce que tu veux faire ?», tout de suite, je disais « je serai institutrice ».
Ah bon ? Donc, là, c'est la rarité des livres qui t'a fait aimer les livres, on pourrait dire ça.
Enfin, en tout cas, je retiens ça et je me dis que ceux qui sont loin des livres ne sont pas interdits de les rencontrer un jour.
Mmh.
Donc, c'est pas une fatalité.
Oui, mais comment tu expliques alors cette absence de livres?
Oh, ben, je viens d'un milieu très simple. Et voilà, il n'y avait pas. Je ne vois pas de bibliothèque dans la maison de mon enfance.
Mmh.
C'était pas interdit, mais c'est l'école qui m'a donné l'envie. Hein.
Oui, mais un peu pour faire l'ironie du temps, parce qu'actuellement, il y a beaucoup des appartements où, à cause ou grâce à Internet, les gens n'ont plus de livres non plus.
Eh bien voilà, rien n'est grave peut-être. Rien n'est grave peut-être. Il faut faire attention,
oui,
simplement.
Oui, pour moi c'est un signe quand même de déculturisation, de désapprentissage, et surtout de manque de contact avec l'objet.
Oui.
Oui.
Oui, non, mais j'ai d'autres activités qui montrent que je m'en inquiète aussi. voilà.
Oui, on va y parler.
Mais bon,
justement.
Enfin, je constate que pour ma part, c'est comme ça.
Oui.
Mais enfin, le livre, le premier livre de mon enfance, je m'en souviens. Bon, c'était un peu une BD, c'était Babar.
Mm-hmm.
Je remercie.
Ah, l'éléphant.
Oui, mais ça m'a été offert par mon institutrice pour me récompenser.
Oui.
Voilà, j'étais toute petite. Et puis après, une histoire de grizzly. Mm-hmm. On parle d'ours,
de
Viviane,
d'ours, oui.
Actuellement. Je suis très sensible à l'aventure de Viviane à cause de ce premier livre que j'ai lu.
Oui.
Voilà. Et puis maintenant, je ne pourrais pas m'endormir sans lire.
Ah, d'accord. C'est un des meilleurs accompagnateurs, on pourrait dire, les livres.
C'est le soir, le dialogue qu'on n'a pas eu dans la journée.
Mm-hmm.
C'est bien sûr l'ouverture à des points de vue différents, à des cultures différentes, à des modes de pensée différents. C'est pas un divertissement.
Oui.
Et c'est une communication essentielle.
Oui. Est-ce que tu crois que c'est ta communication essentielle avec, que tu as avec les livres? On peut l'obtenir aussi avec une liseuse ou avec un écran qui lit des livres, par exemple?
Là, je réponds clairement, mais pour moi, c'est impossible.
Mm-hmm. Tu as essayé déjà.
Mais lorsqu'on m'envoie des choses à lire
à l'écran,
par Internet, un manuscrit par exemple, je ne peux pas.
Oui.
Ou alors j'aurais une attitude négative par rapport au texte que l'on me propose. C'est pas possible.
Mmh. Alors voyons ton choix professionnel une fois que tu finis tes études secondaires. Tu savais déjà que tu allais choisir les lettres?
Oui, j'ai hésité un tout petit peu entre philosophie et lettres et littérature. La philosophie m'intéresse, mais la chair qu'il y a dans la littérature m'aurait beaucoup manqué. Et donc, je suis enchantée d'avoir fait ce choix.
Mmh. Est-ce qu'il y a eu un personnage dans ta jeunesse qui a influencé pour ce choix? Ou que tu as véhiculé vers...
Non, c'est mon contact direct avec la littérature ou la philosophie en l'occurrence que j'ai trouvé essentielle. La philosophie est très très importante, mais faisant plus, peut-être trop, appel au mental.
Mm-hmm.
Et j'avais besoin de... Non, je ne vois pas, non, qui m'aurait orienté, non.
Mais pour passer les CAPES, ces diplômes pour accéder à l'enseignement national et privé aussi, avant, tu savais déjà que tu allais devenir enseignante?
Oui. Oui, oui, absolument, ça je... Mm-hmm. J'ai jamais varié.
Ah
j'ai
oui.
J'ai toujours déjà... Alors... J'ai commencé institutrice et puis peu à peu je me suis retrouvée en lycée, mais en même temps l'enseignement dans le primaire m'aurait plu. Voilà, je ne serais pas tout à fait la même personne.
Oui, mais pour finir avant la pause musicale que tu présenteras après, et cette tentation de texte, de lettres, ces rapports avec les livres, on dit que les lecteurs sont des écrivains impuissants aussi. Alors, abordons ça.
Fine question, Rosendo. Bon, alors c'est vrai, je me souviens m'être promis lorsque j'étais adolescente que j'écrirais aussi. voilà, et puis la vie a fait que il y a plein de choses à faire, il y a une vie de famille, il y a des enfants qui arrivent. Il y a du travail, la marmite qu'il faut faire bouillir. Mmh. Voilà, le temps, je ne l'ai pas pris. Et puis, je me suis aperçue que... c'est donc dire qu'il n'y a aucun regret là-dedans.
Mmh.
Je me suis aperçue que la littérature que j'aimais, c'était une littérature d'auteurs qui avaient d'abord une expérience très exceptionnelle de la vie. Soit parce que dans leur pays quelque chose est arrivé, une guerre, ou une expérience personnelle très forte. Et j'ai jamais cru que ma vie avait d'intérêt à ce sujet-là. Elle a de l'intérêt, et voilà, j'allais dire normale. on peut plus dire ça maintenant. Mais voilà, d'autre part, je ne fonde pas non plus le centre de la littérature sur l'imagination. J'aurais tendance à dire que je n'en ai pas. Voilà, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà.
Mais ce n'est pas, excusez-moi de taquiner un petit peu, mais ce n'est pas un exercice de fausse modestie que tu nous fais là.
Non. Alors, ceci dit, j'ai toujours écrit. Mmh. Et j'ai écrit, je dirais, parce qu'on me l'a demandé au départ, et j'ai plaisir à écrire pour introduire à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mmh. Et on dit que c'est intéressant. Du coup, on me redemande. Du coup, j'ai quand même écrit. Mais franchement, ce qui fait peut-être le centre de ma personnalité, c'est donc de transmettre. Donc c'est pas très différent. Mais le travail d'écriture est chez moi quand même quelque chose d'extrêmement exigeant, donc de très difficile, parce qu'arriver à dire quelqu'un, c'est difficile. Et en même temps, j'ai l'impression de m'exprimer moi-même aussi dedans. Donc tout va bien. Parmi les morceaux qu'il m'a été demandé d'amener pour illustrer musicalement cette émission, j'ai choisi ce morceau. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais c'est un tout petit morceau. Hein, c'est très court, je crois une minute et quelques. Et il y a non seulement tout Mozart, mais il y a toute l'humanité, il me semble. C'est l'air de Barberine dans Les Noces de Figaro. Mmh. Barberine est cette petite servante qui était chargée par le comte d'amener un billet à Suzanne de façon à ce que, avant son mariage, il puisse bénéficier de ce qu'on appelle le droit de cuissage. Mmh. C'est tout le thème de, voilà. Et cette petite servante, elle est là, une intermédiaire obéissante par nécessité, c'est une servante. Elle craint de se faire gronder, elle est dans la nuit, il fallait amener ce billet, bien sûr, incognito, et elle l'a perdu dans le jardin, elle est dans le noir, et elle se désespère d'avoir perdu cette épingle et ce billet. Il me semble que c'est un peu la condition humaine, je crois, lorsque on cherche notre chemin, mais d'une façon si légère, si pathétique, si belle, franchement, j'en ai toujours le cœur soulevé.
On dirait que tu es en train d'écrire, mais je assure nos auditeurs, Geneviève n'est pas en train de lire une critique ou un commentaire musical, elle improvise. Là,
ah, j'improvise, oui, bien sûr. Je joue le jeu du direct, presque.
Oui. Très bien, très bien. Et dans ces partages dont nous parlions tout à l'heure, de la littérature, des lettres, de la poésie. Il y a eu une œuvre à toi qui, je pense, mérite de s'arrêter un petit peu. Donc, il s'agit des éditions réciproques. Comment est venue cette décision, cet acte fondateur des éditions réciproques dont tu es la responsable, Geneviève?
Alors, c'était pas prémédité, ça s'est fait peu à peu. Je dois dire, j'appelle ça les éditions réciproques, je le mets au pluriel parce que nous sommes trois. Mm-hmm. Ça, trois, ça fait un pluriel.
Brigitte, Alix.
Voilà, et moi-même.
Et toi.
Et chacune a son rôle, voilà. C'est venu d'un cadeau qui m'a été fait une année dans la fin des années 90. Un cadeau à la fois livresque, sous forme de livre, et qui était sur un sujet qui familialement nous rapprochait. Il s'agissait de faire un... J'ai reçu donc un petit livre avec des cartes postales que mon grand-père a envoyé pendant la guerre de 14 à sa famille. Mmh. Et c'était un très joli petit livre. Ça nous a un peu éblouis. Donc ça, c'est Brigitte qui est responsable de ce point de départ. Ça nous a un peu donné des idées. Ensuite, il s'est trouvé qu'une amie, Marie Valette, peintre... Mmh. Montauban,
oui.
Qui était dans la nécessité de vendre des gouaches, des peintures et des gouaches en particulier, se refusait à vendre un certain nombre de gouaches parce que elles formaient une série.
Saint-Georges et le Dragon, oui.
Voilà. Sur le thème de Saint-Georges et le Dragon qu'elle avait réalisé après un voyage à Venise. Pour voir le Saint-Georges de Carpaccio. Mmh. Donc elle y tenait beaucoup. Et je lui ai proposé pour qu'elle puisse éventuellement s'en séparer sans que ses œuvres soient éloignées les unes des autres, d'en faire un petit livre. Et du coup, nous avons fait ça en sérigraphie avec le plus grand soin, tout petit tirage. Et voilà là où j'écris. J'ai écrit le texte correspondant à ce livre-là. Voilà le genre de travail d'écriture que je peux faire. Et évidemment, ça a été le commencement d'une série de publications qui nous amène jusqu'à maintenant. Nous avons 25 titres à notre actif. Textes qui sont toujours... avec une illustration graphique qui peut être de la peinture, mais ça peut être également du dessin, de la gravure, de la photo. Et tu sais bien, Rosendo, que nous avons eu une aventure ensemble.
Ah, oui.
À ce sujet.
Oui, avec les poètes Maya.
Voilà.
Jorge Cocompeche.
Les secrets de l'aïeul.
Oui, mais en réalité, pour moi, c'était un travail, facile par rapport à tout ce que vous avez fait, parce que je ne fais que griffer quelques illustrations sur votre ouvrage.
Ben, c'est un tout, justement. Mm-hmm. Hein, c'est un tout. Et il y a celui, et c'est moi, qui reçoit le texte et qui imagine qu'on peut en faire un beau livre. Il y a celui qui l'illustre éventuellement, soit par un texte, soit par une image. Hein. Et il y a aussi celle qui va choisir la couleur du papier, le format, l'agencement même du livre, parce qu'ils sont pas tous en forme de livre traditionnel.
Oui, justement, je voudrais que tu en parles davantage sur ces choix, sur cette finesse du papier, de la fidélité de la reproduction, de la texture, de la couverture. Donc, ce n'est pas une édition quelconque, les éditions, les réciproques. Et il me semble qu'à tout à l'heure, tu as signalé 25 titres à ton actif, la manière dont vous êtes parti. Mais j'aimerais aussi que tu exposes à nos auditeurs que ce n'est pas le partage seulement les livres comme un support quelconque, c'est aussi un objet précieux.
Voilà. Alors je réponds à la question que tu évoquais tout à l'heure concernant l'écran ou les lectures sur à l'écran, ce que nous souhaitons faire justement, c'est un livre que l'on ne mettra pas au pilon. C'est un livre qui est aussi qui est à lire. Je tiens beaucoup à ce qu'il y ait à lire. Il est à voir. Il est à toucher. C'est aussi un objet. Donc c'est un livre qui est précieux, oui, par sa rareté aussi, puisque nous ne publions qu'à peu d'exemplaires. Hein. En général, ça n'excède pas 500. Souvent, c'est 300. Il y a un cas à 1500, mais c'est tout à fait particulier. Voilà. Donc c'est les textes sont courts parce que je pense que nous sommes nous devons pouvoir arriver à dire les choses brièvement, de façon à ce qu'elles continuent leur chemin dans la tête du lecteur.
Oui, je voudrais rajouter aussi, entre autres perles de la qualité du travail que tu fais aux éditions réciproques, c'est les touchés du papier, bon, tu l'as signalé, hein, mais je précise qu'il y a aussi des gaufrages. Il y a des encres qui sont en relief. Il y a tout un travail très, très soigné qui mérite vraiment qu'on s'arrête un peu.
Oui, oui. Et puis, ils ne s'ouvrent pas tous de la même manière. On a publié un livre de poèmes arabes de Saïd Ben Jelloun, français d'un côté, arabe de l'autre. En effet, le livre arabe s'ouvre à l'envers par rapport à nous, on va dire.
Oui. Hein?
Le livre chinois, il est souvent en accordéon. On dit en accordéon, c'est pas très joli, ça correspond pas trop à la chose. Et dans le livre que j'ai fait, écrit avec les dessins de Michaud, il faut chercher le début.
Oui.
Voilà. Donc, c'est un objet un peu particulier. On l'aborde autrement.
Hein?
Et il y a à voir, il y a à lire, mais il y a à s'orienter aussi dans le livre, donc de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà.
Et justement,
actuellement, nous sommes en train de faire un livre avec du papier calque.
Oui.
Voilà, avec des pages qui sont percées, qui font voir à l'arrière ce qui est écrit et que l'on devine dans la petite fenêtre qui a été ouverte, voilà. On joue avec tout ça. C'est dire qu'on met du temps pour le faire.
Et puisque ces rapports avec le livre en tant qu'espace, en tant que toucher, en tant que sentir avec tous nos sens, sur ce que l'écran ne peut pas nous accorder, c'est ta relation avec l'espace, avec l'orientation, avec le temps, est-ce que ça t'a donner les choix pour aujourd'hui sur Pina Bausch, parce que tu as choisi une artiste à faire partager à nos auditeurs dans cette séquence de notre émission, et c'est Pina Bausch. Alors pourquoi Pina Bausch?
Eh bien parce que je savais que j'aurais à parler de quelque chose, je me suis dit mais il y a tellement de choses que j'aime et tellement de choses que j'aime, c'est pas ça, tellement de choses qui m'émeuvent que je me suis dit, je suis devant une forêt vierge. Donc je vais évoquer la dernière émotion esthétique que j'ai vécue.
Oui.
Et donc hier soir sur Arte, il y avait la reprise du film de Wenders.
Ah, Wim Wenders.
Oui. Sur Pina.
Oui.
Et donc je me suis dit, tiens, ben, puisqu'il faut parler de quelque chose, je vais parler de ça. Je pourrais parler de peinture, je pourrais parler de livres, bien entendu, mais la littérature ne m'empêche pas, et même au contraire, la littérature m'amène à d'autres formes d'art. Je pense que de musique, on s'en passe pas, de cinéma non plus, et de danse non plus. Donc dans cette soirée à regarder à la fois le travail de Wenders et le travail de Pina, c'était vraiment que j'ai vu déjà d'autres fois. Hein.
Oui.
Mais c'était même retrouver une émotion. Cette chorégraphe est quand même... certes, elle est allemande. Il y a beaucoup de choses qui, dans son expression, qui sont propres certainement à l'histoire de son pays, à son histoire personnelle.
Oui.
Mais elle accède à un universel.
Ah oui, c'est ça qui fait
tout à fait étonnant.
C'est ce qui fait l'artiste, le côté universel.
Tout à fait
oui.
étonnant.
Mais pour reparler un petit peu de Winder, la réalisation de son film, je l'ai vu aussi en 3D. En principe, je suis un peu réfractaire et parfois imperméable, et farouchement imperméable à tous ces effets spéciaux qu'il y a dans les films. Mais c'est le seul film où je ressentis que la 3D était tout à fait pertinente parce que elle s'accordait avec les récits, s'accordait avec l'esprit de la danse, surtout de Pina Bausch. Parce que j'ai vu d'autres films, non par ma choix, parce que je n'aime pas particulièrement les effets spéciaux, parce que ça, les sons et lumières, les spectaculaires parfois priment ou s'échevauchent à la qualité de l'histoire, à la qualité de la bonne réalisation, la bonne mise en scène. Mais dans les cas de Pina Bausch, réalisé par Winder, ça a été vraiment un régal. Donc, je t'invite à, si tu as l'occasion de le voir en 3D, c'est vraiment une pure merveille.
Ah ben, alors, bon, donc je n'en ai pas bénéficié sur Arte, mais j'ai pris l'œuvre en pleine figure, je n'ai pas analysé du tout l'aspect technique, il y a la sensibilité de Winders qui sait faire parler les danseurs, ne retenir que la petite phrase qui va faire son chemin aussi chez le spectateur. Et puis il y a ces danseurs que Pina est arrivée à libérer de la technique, leur demandant de plonger au fond d'eux-mêmes, d'être un peu fou, de céder aux élans qui viennent des profondeurs pour laisser parler le corps, car le corps est un langage aussi. Avec il y a des chutes, des élans, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement humain, justement. À la fois une grande solitude qui est exprimée, elle est capable de le faire voir tout seul. Le drame de la solitude qu'un danseur peut exprimer, mais en même temps il y a des moments de joie collective formidable. Franchement, c'est l'humanité.
Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura. ahora nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Voilà la maldition de Malinche que j'aime beaucoup et que je te dois, Rosendo.
Mais non.
Parce que c'est suite justement à cette belle aventure que nous avons réalisée à Paris,
avec
au Quai Branly, avec les fameux secrets de la gueule de Cocompêche,
oui,
avec Ricardo Rueda, etc. Mm-hmm. Que j'ai eu l'occasion chez toi d'écouter cet air extraordinaire. Il me plaît que ça soit en langue espagnole. Bon, le premier morceau, c'était du classique, on va dire. Donc, c'est universel aussi, Mozart. Mais là, je trouve que cet air qui évoque cette jeune femme interprète de l'envahisseur espagnol, tombée amoureuse de lui-même et qui chante là le désespoir d'être considéré un peu comme traître par son peuple.
C'est ça, oui.
Je trouve très beau. Évidemment, il n'y a pas de choses à dire importantes dans la vie si on n'évoque pas, s'il n'y a pas de l'ambiguïté. La joie pure, ça n'existe pas. Et là, il y a un drame, une fragilité. Très très belle, et puis évidemment ça évoque la conquête, ça évoque ce que l'Occident a été faire dans les Amériques, ça évoque le XXe siècle ici, puisque cette plainte arrive jusqu'à nous. Et puis alors, bon, musicalement, qu'est-ce que c'est beau.
Oui,
on s'arrête, on écoute, on dit plus rien.
Je dois indiquer à nos auditeurs que s'ils veulent réécouter cette chanson, et c'est l'interprétation de Marta Ochoa, et la chanson appartient à Gabino Palomares, et le duo que vous écoutez, c'est justement le compositeur, lui, Gabino Palomares, et Marta Ochoa. Le titre de la chanson, c'est « La maldition de Malinche ». Et puisque on est à l'Amérique latine, je voudrais citer un titre, Ecuador, parce que ça va nous conduire vers un des auteurs préférés, Michaud, Henri Michaud. Donc, et je parle d'Ecuador, c'est le titre de sa visite qu'a eu Michaud à l'Amérique latine. Tu as parlé de l'universel, de la culture asiatique. Donc Michaud, il est parti à l'Amérique latine, il est parti en Asie. Mais et toi, comment c'est que tu es parti à la connaissance d'Henri Michaud?
Alors, ça s'est trouvé à un moment où, ayant déjà enseigné une dizaine ou quinzaine d'années, j'avais besoin... j'avais besoin de me nourrir moi-même, donc plutôt que de passer l'agrégation, qui est un concours un peu assommant, je me suis lancée dans un doctorat. Mmh. Et voilà, ça convenait mieux à mon tempérament, le long terme. Je cherchais un sujet en poésie, parce que je pense que en poésie, il s'exprime souvent à l'avance des choses qui apparaîtront après dans les peuples ou dans l'histoire. Voilà. Donc je cherchais un poète, mais je cherchais un poète qui me permette de parler de peinture aussi. C'est pas évident. Michaud, je le connaissais comme poète, il m'intéressait, et c'est à ce moment-là qu'allant à Beaulieu, j'ai découvert qu'il était peintre aussi. Parce que les choses sont cloisonnées en France, hein. Il y a les livres et puis il y a les musées. C'est pas la même chose. Et j'ai découvert au miracle que Michaud, dont j'appréciais surtout beaucoup l'humour et la,
c'est à des articulations de langage aussi qu'il a une manière de morceler, de les échapper à la cohérence.
Et puis ce qui m'a passionné là-dedans, c'est que je ne comprenais pas tout dans Michaud. Il y avait des choses qui m'étaient vraiment difficiles à comprendre. Je me suis dit donc il y a quelque chose à trouver. Souvent dans les doctorats, les gens savent à l'avance ce qu'ils vont faire. Moi, ce qui me plaisait, c'était d'avoir à trouver quelque chose. Donc à le chercher. Et pour compliquer le tout, il fallait aussi que ça m'amène à découvrir, que ça m'amène ailleurs.
L'Orient. Donc
c'était parfait. Michaud, la difficulté de comprendre Michaud, la nécessité de parler de sa peinture et du besoin qu'un peintre qui était par ailleurs poète et qui écrivait si bien, avait quand même besoin d'écrire un mystère, et ça m'a mené à la Chine. Du coup, j'ai fait les choses bien, j'ai commencé à apprendre le chinois, que je continue à apprendre aujourd'hui, parce que je suis moins... je travaille moins maintenant, peut-être ce chinois, donc j'y suis encore... j'en ai pour la vie. Voilà. Je trouve que c'est un choix qui s'est fait donc peu à peu, et c'est un poète qui m'a amené très loin physiquement, puisque je suis allée en Chine aussi, en Inde également, mais intellectuellement qui m'a amené très loin, et peut-être humainement aussi, parce qu'on ne peut pas lire Michaud sans se mettre en question soi-même. Maintenant, bon. Nous restons des êtres imparfaits, bien entendu, mais il y a un appel à se connaître et à se travailler un peu. Chez lui, il y a l'idée que l'œuvre l'ouvrier. Et évidemment, quand on le lit, on est bien obligé d'en faire un peu autant.
Oui. Et tu viens de dire, on ne peut pas lire Michaud sans se connaître soi-même, ou sans se remettre en cause soi-même.
Oui.
Et justement, cette remise en cause, cette réflexion sur soi-même, je pense que les livres, en tant qu'objet, en tant que pratique solitaire et surtout de réflexion, est impossible, à mon avis. Hein. Je partage cette idée que tu as manifestée au début de l'émission, qui est donnée par la lecture à l'écran. Je ne pense pas que ce soit l'écran en lui-même ou l'outil qui soit mis en question, mais c'est surtout la pratique à laquelle peut nous conduire une accumulation excessive que nous recevons, soit par Internet ou à l'ordinateur, etc., parce que du coup, on perd les rapports avec l'espace et le temps qui nous donnent, comme on dit Kundera, la lenteur de la réflexion. Et quand tu évoques Michaud, justement, on ne peut pas lire des textes importants de la poésie par Internet. Non? L'opposé, c'est les SMS, les textos que je ne connais pas parce que je n'ai pas de portable. Mais cette approche de la lenteur de la réflexion ne peut être donné que par les livres en tant qu'objet. Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu réactionnaire ou trop conservateur là-dessus, non?
Mais... Non, moi j'adhère tout à fait à ce que tu dis. Mais je ne crois pas à la mort du livre. Enfin, en tout cas, ou alors, je vois tellement de gens qui sont à la recherche de livres qui va les émouvoir ou dont ils ont entendu parler, qu'ils veulent lire, qu'ils le cherchent. Bon, non, j'y crois pas. Mais je suis absolument d'accord avec toi. Si on a un livre long à lire, il faut vraiment, on va pas rallumer l'écran chaque fois, c'est pas possible. Non. C'est beaucoup plus commode un livre.
Oui.
Hein, c'est très commode. Si c'est pour des œuvres brèves comme de la poésie ou je sais pas, je me dis que toute la pensée chinoise, elle est dans le Tao Te Ching. Donc il y a très peu de sections dans ce livre. Mm-hmm. Il est tout petit. Mm-hmm. En fait, il faut rester longtemps devant la première page parce qu'on peut ne pas la comprendre. Puis va venir le moment, il faudra refermer le livre, le rouvrir. Puis c'est un moment que, comme la mémoire, lorsqu'elle revient tout d'un coup, eh bien il y a une lumière qui va se faire. Mm-hmm. Voilà, on va pas rester comme ça devant l'écran, hein, c'est pas possible. Non. Maintenant, voilà, moi ce que je dirais pour tout ça, je n'aime pas vitupérer, donc je laisse les écrans là où ils sont, mais en revanche, je dirais volontiers, allez chez vos libraires, en centre-ville. Voilà, c'est le dernier morceau de ma sélection. J'ai plaisir là à souligner un morceau qui appartient, qui est turc. C'est une clarinette turque. Un morceau que j'ai, enfin un disque que j'ai acheté à Istanbul et que j'écoute très souvent parce qu'il y a d'abord des sons pour la clarinette, on la connaît, mais il y a des sons tout à fait insolite pour nous, et c'est il y a une légèreté extraordinaire qui me rappelle les bords du Bosphore où je suis allée, où j'ai acheté ce disque, et il me semble que c'est aussi un clin d'œil à ce qui se passe sur la place Taksim actuellement.
Mm-hmm, oui.
Parce que le groupe qui joue ici s'appelle Taksim Trio.
Ah, d'accord. C'est justement c'est ça que je cherchais, les noms.
Mais avant qu'il se passe cet événement, j'écoutais ce disque avec beaucoup de plaisir. Là aussi, il me semble que c'est une musique qui nous... Bon, qui fait que la pesanteur est moins pesante. Et il y a des envols, des sons qui planent, c'est vraiment... Ça soulève, ça allège.
Mm-hmm.
Et c'est ça le grand bénéfice de la musique, de nous amener ailleurs.
Puisque tu parles d'un vol, parlons aussi des projets de les éditions réciproques. Qu'est-ce que tu mijotes actuellement avant de parler de la grande exposition que tu prépares?
Voilà, alors il y a deux livres qui vont sortir, c'est pourquoi cette fin d'année est assez chargée. Un livre de poèmes de Liliane Robman et Nelly Bonnefils, donc... L'une texte, l'autre image, qui va paraître dans quelques jours, qui seront présents, ces livres seront présents à l'Autrec où on va participer au salon.
Ah, je connais l'Autrec. Le Café Plume?
Alors c'est le Café Plume, mais dans le cadre du salon qui s'appelle la fête du livre et de ses métiers.
C'est quand? Voilà.
Le 13 et 14 juillet.
Oui, peut-être qu'on va se croiser.
Voilà. Et nous allons à Sète aux Voies Vives de la Méditerranée, également, du 20 au 27, au 28 exactement.
Oui.
Très très beau festival consacré à la poésie, ce qui est quand même assez énorme. Que de la poésie, partout dans la ville, dans les jardins, dans les cours, dans les rues, et sur la place du Pouffre.
Mmh.
Voilà. Poésie de la Méditerranée. Donc il y a des poètes de tout le pourtour qui seront là.
Donc il est prêt déjà, j'imagine.
Alors il va arriver chez l'imprimeur. On l'aura pour ça. Et puis le deuxième livre, c'est le troisième tome de notre best-seller, celui qu'on tire à 1500 exemplaires.
Et c'est
qui, voilà, qui est le livre d'un pédopsychiatre toulousain. Qui a mis en mots, oralement, texte qui a été transcrit ensuite, toute son expérience de pédopsychiatre et de connaisseur de l'âme humaine et des nœuds qui se font au fond de soi-même et dans les familles. Normalement, c'est pas notre projet de publier ce genre de choses, mais il a une particularité, c'est qu'au lieu de parler freudien, lacanien ou je ne sais dans quel jargon, il parle par métaphore. Et c'est si rapide de comprendre ce qui fait problème que j'ai trouvé que ce recours à la métaphore pouvait relever de notre maison d'édition.
Mmh.
Voilà, la poésie, elle peut être partout. Alors c'est, au départ, ça devait s'appeler Les humanités du thérapeute. Voilà, ce sont trois livres, l'un qui s'appelle Du chantier naval au grand large, on voit la première image.
Mm-hmm.
Deuxième livre, De la loi du plus fort à la loi du juste. Et le troisième livre, c'est De l'effet mère au père vivant.
Mm-hmm.
voilà, nous aurons terminé le cycle Claude Maillet, mais c'était une expérience, cette publication, une expérience vraiment intéressante.
Oui, oui. Voilà. Donc, et serait-il possible, dans ces rencontres que tu vas faire avec le public, que tu présentes aussi les autres 25 titres que tu as, ou tu dois cibler, tu dois focaliser sur la poésie ou sur le travail de cet auteur?
Quand je veux définir un peu les éditions réciproques, je dis on travaille au coup de cœur. Mm-hmm. Et puis point, c'est tout. Oui. Donc je dis ça, oui, c'est dans notre, mais c'est bien aussi que je n'ai pas des barrières trop rigides, comme ça il peut rentrer des choses un peu étonnantes comme ce travail de pédopsychiatrie.
Oui, mais sinon les catalogues que tu as, il est disponible sur...
Ah oui, oui, il y a tout sur Internet.
Presse, oui.
Il y a tout sur Internet. Si je dois donner l'adresse de mon site, c'est édition réciproque au pluriel, puisque nous sommes trois.org.
Très bien. Donc, je t'invite à nous présenter la grande exposition que tu prépares à l'abbaye des Beaulieu en Rouergue, Support et surface, et après. Voilà. C'est le titre.
C'est le titre. Voilà, je donne suite au travail de Geneviève Bonnefoy à l'abbaye de Beaulieu. C'est la troisième année que nous proposons des expositions. Il y a eu Un souffle venu d'Asie, 2011. Je fends de Villiers en 2012. Et cette année, Support surface. Support surface et après, tu as raison. C'est un thème qui m'a été inspiré par ce qui s'est produit l'année dernière au musée Ingres, puisqu'il y avait Vincent Gioulès, qui a été exposé pour ses dessins, des dessins entre Rome et Montauban. Donc on n'a pas beaucoup vu le travail qu'il a fait dans le cadre du moment Support surface.
Mais il n'est pas là à l'exposition.
Non, justement, parce que je pense qu'il a été bien représenté.
Oui, donc il y a André-Pierre Arnal, Pierre Buraglio, Louis Kahn, Bernard Pagès et Claude Viala.
Voilà. Donc ça m'a rappelé ce mouvement très important des années un peu avant 68, jusqu'à 71, 72. Qui ont remis à plat la pratique et l'enseignement, d'ailleurs, la pratique de la peinture, et qui sont partis pour éviter peut-être de mettre leurs pas dans les pas des peintres d'abstraction lyrique ou des peintres de la représentation figurative. Ils avaient besoin d'un nouveau commencement. Donc ils sont partis du support et de la surface. Mmh. Il y avait Biolès, il y avait Viala, ce que tu as nommé.
Il y avait Daniel Deseuze aussi.
Daniel Deseuze, ils avaient fait beaucoup de bruit parce qu'on avait l'impression qu'ils cassaient tout. Il m'a semblé intéressant de savoir ce que ces artistes étaient devenus, ce qu'ils avaient fait après. Bien sûr, on ne pouvait pas tous les exposer. J'en ai choisi 5, justement parce qu'ils ont des parcours différents. Et je pense que l'exposition va permettre aux visiteurs d'abord de suivre ces 5 chemins à partir du point de départ, le support, la surface. Ces 5 chemins et en même temps des comparaisons de l'un à l'autre. Mmh. Et à réfléchir au bout du compte, à réfléchir sur l'art, quel est son rôle. Même quel est son rôle dans la société, car il se préoccupait beaucoup à l'époque de quel était le rapport de l'artiste à la population, à la façon de présenter les choses. Voilà. Et puis, des questions sur l'art lui-même.
Oui, mais c'est quand même paradoxal qu'un mouvement artistique qui a été un des groupes fondateurs de l'art contemporain français, aussi en peinture qu'en sculpture, soit aussi éphémère. Bon, je dis éphémère parce que ça durait que 3 ans.
Non, non. Je pense que, d'ailleurs, très très souvent, les mouvements ont été de cette sorte. il y a eu une flambée de réflexion, un bouillonnement à un moment, et puis ensuite l'art se fait tout seul dans l'atelier. Donc, et finalement, on s'apercevra, en ayant vu les 5 artistes, qui sont tous support surface encore.
Il y a aussi de la sculpture ou que
oui,
de la peinture?
Oui, Bernard Pagès, qui a commencé par la peinture et ensuite, il y a une très très belle sculpture qui nous vient du musée de Denis Puech de Rodez. Mais à vrai dire, il nous fallait un sculpteur car le point commun de tous ces artistes, c'était de partir non pas d'une rêverie, mais de la matière.
Oui.
La matière cadre, la matière toile, la matière bois, la matière métal pour le sculpteur. Donc, il y a toutes ces réflexions à faire. L'inauguration, c'est demain.
Oui.
Demain, samedi à 15h et pour tout l'été jusqu'au 6 octobre.
Oui. Et oui, comme notre édition a été est enregistrée comme notre émission, donc je rappelle que l'exposition commence effectivement
dimanche, ça commence dimanche jusqu'au 6 octobre.
Jusqu'au 6 octobre, oui.
Dimanche 30 jusqu'au 6 octobre.
Ça a été difficile de réunir les 5 qui représentaient pour toi la diversité des supports de surface?
Je crois que ce qui est difficile, c'est d'avoir une idée, d'abord. Et oui. Donc, je l'ai eue. Donc, et après, bon, non. J'ai été très très bien accueillie par les 5. J'ai trouvé qu'ils avaient gardé l'esprit de ces années 68. Ça m'a bien fait plaisir parce que, au fond, c'est ma génération.
Oui. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Malheureusement, on doit terminé, je te laisse les derniers mots. Avant, pardon, je dois dire à nos auditeurs que c'est notre dernière émission de la saison, avant de reprendre le mois de septembre. Et je te laisse les derniers mots à toi, Geneviève, et je te remercie d'être là.
Bon, dernier mot, je pense que j'en ai déjà tellement dit que c'est plus la peine. C'est une émission qui me faisait un peu peur parce que je n'ai pas eu l'habitude d'être cuisinée pendant une heure comme ça. Mais finalement, ça s'est bien passé. J'espère que pour les auditeurs, ça sera agréable aussi. Merci à tous.
Voilà, c'était les rendez-vous de Rosendo. Aujourd'hui avec Geneviève André-Aquier. Retrouvez son travail sur le www.editionreciproque.org et retrouvez cette émission en podcast sur cfmradio.fr.